aujourd'hui, 5 décembre, contempler les exploits du Seigneur, voilà. Donc on va faire ça. Alors, pour reprendre le cours où nous, les SAM, je vais repartir d'abord d'un dessin parodique, puisque l'intéressé n'est pas là, je peux en parler, qui a été affiché sur ce que nos amis canadiens appelaient l'an dernier le babillard. Donc, vous voyez, le panneau d'information. Et donc, sur ce babillard se trouve une image qui se veut résumant le cours de la dernière fois, notamment sur la distinction entre faire et agir. Et alors, vous avez un homme qui offre, un homme apparemment riche, qui offre la clé de sa voiture à un pauvre dans la rue. Et puis, à côté, vous avez l'image d'un homme apparemment riche qui offre la clé de sa voiture à un pauvre dans la rue. Et en dessous, il y a écrit « faire » et de l'autre côté, il y a écrit « agir ». Je parle de vous, Paul. Donc, le dessin qui a été fait par Paul, avec une distinction, la seule nuance, c'est que dans le premier dessin, il offre un certain type de voiture qui est... C'est quoi d'ailleurs? Une Ferrari, voilà. Et dans l'autre, il offre une Bentley. Et ce qui laisse d'ailleurs, parce qu'il pose des questions, mais bon. Alors, bien sûr, Paul, dont l'esprit est facétieux, à la fois, je ne pense pas qu'il ait voulu se moquer de moi. C'est un homme extrêmement délicat, qui respecte toujours les autorités, qui sait que toute autorité est divine, enfin, vient de Dieu, bon. Donc ça ne lui viendrait pas à l'esprit. Mais il n'en demeure pas moins qu'il a très bien rendu le fait qu'on pourrait avoir des actes qui extérieurement sont les mêmes, mais qui n'ont pas la même signification morale. Donc, mais j'ai l'impression que cette image est plus qu'ancienne qu'aristotélicienne. Elle relève plus de la remarque de Kant, c'est-à-dire... L'idée que Kant, voilà, si j'aide le pauvre simplement pour qu'on me voie aider un pauvre ou parce que voilà, ça fait bien, voilà, j'apparais comme un philanthrope, voilà, ça c'est une chose, vous voyez, et là c'est pas par morale que je le fais, hein, c'est pas par devoir, mais conformément au devoir, par souci de mon image, vous voyez, c'est autre chose. Et puis de l'autre côté, on peut le faire. De manière complètement identique, on pourrait dire, mais simplement parce que j'ai le souci du pauvre, parce que je reconnais dans le pauvre une personne qui a dans sa dignité une valeur infinie que je ne peux pas instrumentaliser simplement, etc. Alors que quand j'ai fait la distinction entre faire et agir, j'ai dit, vous allez peut-être aider le pauvre, vous allez peut-être... mais vous allez reconnaître dans l'agir, voyez, que vous êtes un pauvre avec lui et vous allez établir finalement une relation de communion, de communauté. Donc, si j'avais fait deux images, j'aurais fait la chose suivante. Hein, le premier, le riche, et attendez la subtilité, hein, donne la clé de sa Ferrari et s'en va, d'une Ferrari et s'en va. Le deuxième, le riche, reste dans sa voiture et propose au pauvre de devenir son chauffeur. Ça, c'est intéressant. Parce que vous voyez, non seulement on a l'impression qu'il fait moins, il en fait son chauffeur, mais en réalité, il crée une relation durable, et il lui donne, si vous voulez, un travail, une... Vous comprenez? Alors à ce moment-là, on passe simplement du faire à l'agir, au sens où... Et parce qu'à ce moment-là, quel est le sens de l'agir? C'est de déployer la nature humaine. Or, en quoi consiste la nature humaine? Eh bien, du fait que nous sommes des animaux de parole et de communauté. De communauté dans la parole. Hein? Nous sommes des zoon, ekon, logos. Voilà. Donc des animaux doués du logos, et nous sommes des zoon politikon, c'est-à-dire des animaux politiques. Et chez Aristote, les deux vont ensemble. Alors, c'est ça l'objet hein, de la leçon d'aujourd'hui. Si vous retournez votre feuille, merci Guillaume, je vous prends votre feuille comme d'habitude. Si la morale a pour finalité une action immanente, vous avez compris, hein? Donc il s'agit bien d'une action qui perfectionne celui qui agit. Vous pourriez dire, mais me perfectionner moi-même, ça n'est pas me soucier d'autrui. Qu'en est-il de cette morale aristotélicienne? C'est une remarque que... Là je vous défends Aristote, hein? Je le critiquerai quand on fera cours sur Lévinas. Mais ce n'est pas l'objet de ce cours. Donc ici, c'est le point final. Donc j'essaye d'apporter quelque chose sur un mode qui ne sera pas critique. Là, vous voyez, je m'arrête à Aristote et Thomas d'Aquin. Bon, voilà, comme un couronnement. Mais on pourrait encore faire quelques critiques. Hein, mais je ne pourrais pas... Ce n'est pas l'objet de ce cours. Parce que vous voyez, de ce point de vue-là, ce qui est premier... C'est pas faire quelque chose pour quelqu'un. C'est pas simplement ça. C'est pas faire quelque chose. Vous voyez? C'est d'abord être avec quelqu'un. Et alors, vous comprenez que vous êtes avec quelqu'un et c'est pour cela que vous allez faire quelque chose pour lui. Vous comprenez? Mais c'est pas d'abord faire en dehors de tout être avec. Donc, quand je vous disais c'est l'être qui prime, le déploiement de l'être, c'est ça l'agir et non pas le faire. Et le faire qui est décisif, qui est très important, hein. Je ne suis pas en train de dire, parce qu'il faut aider les autres, il faut leur apporter des choses, vous avez des enfants, vous les nourrissez, donc vous avez à travailler, vous avez à faire des choses. Mais, vous voyez, même si c'est décisif, ce n'est pas premier, d'accord? Et à la limite, la question du faire, même dans sa dimension éthique, c'est ce qu'on va étudier dans la deuxième partie de l'année quand on fera la philosophie du faire, la philosophie de la technique. C'est précisément ça qui va nous intéresser. Mais dans un premier temps, il faut considérer l'agir. Et donc, la question, c'est se dire, mais si il s'agit d'épanouir et de faire fructifier mon être, si c'est ça, la morale, une opération immanente, qu'en est-il de l'autre? Et si je suis dans une anthropologie individualiste, à ce moment-là, je vais toujours voir l'épanouissement de mon être comme en concurrence avec les autres. Vous voyez, si en gros... agir moralement, c'est déployer mon être, comment est-ce que ça ne serait pas en écrasant l'autre? Vous voyez, si vous avez une vision au départ d'une anthropologie qui est où nous sommes d'abord des individus qui passons des contrats, vous allez vous dire que deux choses, soit vous allez vous dire que le déploiement de l'être, c'est toujours en concurrence ou au mépris de l'autre. Première possibilité, la guerre de tous contre tous, d'accord? C'est un peu ce qu'on voit chez Lévinas d'ailleurs, hein. Lévinas va comprendre l'être comme effort pour persévérer dans l'être, donc le principe profond de l'être individuel, c'est presque la conservation de soi, si je suis du côté de l'être. Mais si c'est la conservation de moi-même, n'importe aux dépens de qui? Je vais me conserver, et si la morale c'est me conserver moi-même, je vais écraser l'autre. Vous voyez, le déploiement de mon être se ferait au détriment d'autrui. Mais parce que j'ai pris comme point de départ un être que je considérais comme un pur individu. Ou alors, deuxième possibilité, non, je vais m'intéresser à autrui, mais parce que ça sert au déploiement de mon être. Contrat social. Ouais, bon, la guerre de tous contre tous, ouais, je pars d'une anthropologie individualiste, celle de Hobbes, nous sommes des individus, guerre de tous contre tous, en concurrence, mais il y a un moment où je me dis, ah ben mince, je risque de mourir de mort violente. Plutôt que ça, vous voyez, je préfère aliéner ma liberté et obtenir en échange une sécurité. Vous voyez, conserver ma vie. À ce moment-là, je vais établir des liens avec les autres, mais pour moi-même, je découvre que mon intérêt, c'est d'être en relation avec autrui. D'accord? Et donc, découvrant que c'est dans mon intérêt d'être en relation avec autrui, c'est ça la vie morale, hein, vous voyez, à ce moment-là, je vais comprendre que mon épanouissement doit se faire avec celui d'autrui, voire se limiter pour permettre, vous voyez je vais me limiter, ça veut dire je ne vais pas proliférer complètement, il va falloir qu'il y ait des tailles, des coupes, etc. Mais c'est ça qui va permettre un certain déploiement de mon être et m'éviter surtout certains maux. Donc, il y a deux possibilités. Soit le déploiement de moi-même écrase l'autre, soit je considère l'autre dans le déploiement de moi-même, mais par rapport à mon intérêt. C'est dans mon intérêt que de me soucier d'autrui. D'accord ? Là, vous pourriez vous dire, tiens, peut-être que c'est ça ce qu'on était en train de dire. Vous voyez, regarde, c'était dans ton... Mais non, ce n'est pas ça. Ce que nous dit Aristote, ce n'est pas cela. Parce que si vous vous dites, j'existe comme individu et je me rends compte dans un second temps que c'est dans mon intérêt, vous voyez, de faire attention aux autres, dans une auto-limitation de ma liberté, vous avez perdu de vue que votre nature est intrinsèquement sociale. Ce n'est pas votre intérêt, c'est votre être. Votre être est social. Je ne suis pas un individu qui, dans un second temps, rentre en relation avec les autres et découvre son intérêt. Je suis une personne constituée aussi à travers des relations aux autres. Vous souvenez, même quand je dis « je », vous souvenez, être doué du logos, ça veut dire quoi ? Ça veut dire être politique. Être politique, ça veut dire être doué du logos. Parce que quand je dis « je suis l'héritier d'une langue, je suis déjà un être politique. Je suis déjà avec d'autres. La consistance même de mon individualité se déploie dans un être social. Vous voyez, ce n'est pas comme si j'existais en dehors de la société et puis dans un second temps, je dis « Ah, c'est intéressant d'entrer en société ». Ça, c'est la logique du contrat social. Le déploiement de ma nature et le déploiement d'une nature sociale, c'est donc le déploiement aussi d'une communauté. Et c'est pour cela, de la communauté vraiment humaine, pleinement humaine. C'est quoi la communauté pleinement humaine ? Vous savez, Aristote va dire, voilà, il y a une première communauté qui est la communauté de base essentielle, c'est la famille. Déjà, vous ne pouvez pas exister en dehors d'une famille. D'accord ? Mais cette famille, elle est capable d'assurer, et elle doit d'ailleurs, du point de vue de la subsidiarité, assurer la subsistance quotidienne. D'où la notion d'oïkos, hein. L'oïkos, c'est le lieu où l'on est, avec ses parents, mais aussi le lieu où l'on cultive la terre, où on est capable de faire des petits travaux domestiques parce qu'il faut nourrir ses enfants, parce que même si vous voulez coucher avec une femme, il faut bien que vous couchiez quelque part. Donc il faut que vous sachiez faire un lit. Comme on fait son lit, on couche. Phrase très profonde. Pas on se couche, vous voyez, on se couche, mais c'est solidaire. Non, on couche. Est-ce que vous êtes capable de faire un lit, une maison, une demeure ? Vous voyez, si ce lit, vraiment, il a été important pour vous, vous l'avez fait vous-même, vous pensez bien que ça ne va pas être pour une passade d'une nuit. Vous vous êtes engagé avec la femme avec qui vous avez couché. Vous voyez, il y a un lien là entre les deux. Souvenez-vous d'Ulysse. Du lit d'Ulysse. Que savez-vous du lit d'Ulysse ? Exactement, voilà. Vous savez, parce que Pénélope lui fait un truc pour savoir si c'est bien lui, elle lui dit si c'est bien toi, déplace notre lit et fais-le monter ici parce que... voilà. Et puis il lui dit, mais c'est pas possible. Dans quoi est-ce qu'il a taillé le lit ? Dans une souche d'arbre. Il a fait le lit, voilà, dans une souche d'arbre. Le lit intransportable. Vous voyez ? C'est pas du Ikea, c'est pas... Ah, c'est sûr, hein, si vous avez un lit Ikea, c'est plus difficile d'être fidèle à votre femme. Bah. Vous savez bien qu'un marxien comme moi est obligé d'insister sur la provenance des objets, est-ce que c'est par l'économie marchande, est-ce que c'est vrai, mais c'est pas sans rapport, voyez, hein. Faut jamais oublier, l'économie c'est d'abord la loi de la famille, hein, donc, ouais. Alors
oui, Ulysse, il a fait ce lit-là, et il a...
Et ça, c'est premier. C'est d'abord, notre être social se déploie, vous voyez, parce qu'il va y avoir la femme, il va y avoir l'enfant, et l'enfant va naître ici, le lit, le berceau. Le... Il est pris d'abord dans cette société. Mais ça ne suffit pas. Il faut, pour que l'homme déploie toutes ses potentialités, que les familles s'associent avec d'autres familles, et cela forme un village, hein, c'est la définition du village, où là déjà se déploie, vous voyez, un autre mode de vie. Ce n'est pas simplement la subsistance quotidienne, il est important, mais un deuxième degré où il va y avoir l'artisanat, où il va y avoir, vous voyez, des choses vraiment qui vont se développer. Et ça n'est que dans un troisième temps qu'on arrive au niveau de la cité, polis en grec. D'accord ? Cette cité que Aristote définit comme justement le lieu où l'homme, l'animal rationnel, peut pleinement fructifier. Et il ne suffit pas de la famille. Souvent, quand la cité va très mal, et c'est ce qui se passe beaucoup aujourd'hui, et c'est le danger des chrétiens, voyez, on se replie sur la famille et on devient familialiste. Mais enfin, vous voyez, ça ne marche pas comme ça, parce qu'une famille, d'abord, quand vous avez des enfants, ce n'est pas pour qu'ils se marient entre eux, vous voyez. Donc déjà, il faut qu'il y ait d'autres familles. Et puis ensuite, on est là pour être pris dans une... pour nous ouvrir, vous voyez, la dimension de la culture, elle excède la dimension familiale. Lire déjà des auteurs anciens, c'est ne pas être simplement dans la famille, vous voyez, c'est déjà être pris dans une dimension qui est politique, plus vaste, avec, dans le temps, dans l'espace, dans... Comprenez ? Donc, on n'est pas fait simplement pour... Mais la famille est une base. Si vous éliminez la famille, vous voyez, alors tout s'effondre aussi. Hein, c'est pour ça. Donc, faites attention, on défend la famille, ou plutôt on reconnaît que la famille est l'origine humaine propre, mais elle n'est pas la finalité absolue. Vous voyez ? Sinon, on tombe dans du familialisme. Un familialisme étouffant. Donc, pour cette raison-là, Aristote dit cette chose qui est souvent négligée par les cathos, qui croient que la morale, c'est une affaire d'individu, de responsabilité simplement individuelle, et donc qui oublie que nous sommes des animaux politiques. D'où ça vient chez les cathos, c'est de confondre le niveau de la morale au niveau de la vie commune, et de la morale peut-être au niveau du salut, parce que c'est vrai que le salut, il est personnel. Mais en même temps, est-ce qu'il est purement individuel ? Est-ce qu'on est sauvé tout seul ? Est-ce que ce n'est pas le fruit d'une certaine anthropologie, je vous l'ai déjà dit, une certaine anthropologie où le salut, c'est une, vous voyez, une sorte de décision que j'aurais tout seul avec Dieu, quoi, et puis il y aurait tous les autres qui sont autour de moi, ça ne compte pas. D'ailleurs, vous avez eu l'évangile il y a quelques semaines, vous savez, hein, l'un sera pris, l'autre sera laissé, il y a 10 jours. Donc en fait, vous pouvez dormir dans le même lit, justement, et puis l'un est pris, l'autre est laissé. Alors vous dites, c'est purement individuel. Dieu ne sauve pas. Donc finalement, la question de la morale, ultimement, au niveau du salut, vous voyez, c'est une question purement individuelle. Mais si vous pensez comme ça, c'est oublier que si vous êtes sauvé, c'est aussi parce qu'il y a eu des témoins, parce que aussi, même à l'intérieur, vous avez reçu d'une famille, vous avez reçu... Quand Dieu veut sauver un seul juste... Il sauve généralement sa famille avec lui. Regardez Abraham, regardez Noé. Il faut un arche, une arche pour. Et c'est Noé le juste, mais il y a sa femme, il y a ses enfants, il y a ses petits, il y a les animaux purs et impurs même dans l'arche. Le seul truc qui n'a pas pris Noé, c'est les poissons. On comprend pourquoi. Donc. Non, mais c'est vrai, c'était un bonheur pour les poissons, le déluge, en fait. Eux, c'était... d'un coup, il y avait une sorte d'extension de leur territoire. On pourrait faire un truc sur le déluge du point de vue des poissons. Une lecture, vraiment, serait vraiment intéressant. Pas du tout la même chose, quoi. Alors, vous avez... Vous avez cette idée que la morale, par excellence, est politique. La fin de la politique, dit Aristote, est le bien proprement humain. Dans quoi se trouve le bien proprement humain ? Pas dans mes petits simplement trucs individu, mais dans une dimension qui est proprement politique. Et c'est ce que nous faisons ici. Nous vivons un bien proprement humain parce que, vous voyez, nous venons de diverses familles et nous avons reçu de nos familles. Nous sommes assemblés autour d'une langue qui est un héritage, avec l'héritage des siècles, non seulement de la langue française, mais avec nos racines gréco-latines que nous ne cessons d'activer via aussi la grande théologie de l'Église, etc. Vous voyez ? Remarquez, hein, pour que nous puissions vivre le bien d'être ici ensemble à parler, qu'est-ce qu'il faut ? Et on est déjà dans quelque chose qui a une dimension sociale, politique, profonde. Et moi-même qui vous parle, je suis l'héritier de Jérusalem, d'Athènes, de Rome et de Paris et de Fribourg maintenant. Donc vous voyez, tout ça est là. C'est pas simplement des familles, c'est pas simplement moi comme individu, c'est vraiment dans cette... et mon être est tissé de cela. C'est pas comme si j'étais un individu qui se rencontre ensuite de son intérêt. Je suis une personne qui constate en elle cette origine sociale. Vous voyez ? Et qui est appelée à l'assumer. C'est pas simplement mon intérêt, vous voyez ? C'est ce que je suis, point. Et je dois déployer mon être. Donc vous comprenez que agir, c'est me perfectionner, bien sûr, mais ici, vous comprenez, l'action immanente, c'est une action qui réside pas simplement dans l'agent en tant qu'individu, mais dans l'agent en tant qu'être politique, et donc qui a aussi sa résidence, en termes, dans la communauté. Oui. C'est très important. En quoi c'est une action immanente ? Je me perfectionne, mais je me perfectionne en tant qu'être politique, donc je perfectionne la cité en même temps. De manière indissociable. Si vous vous pensez comme un individu dont le bien se déploie en dehors de cette communauté liée à la parole, eh bien, comme le dit Aristote, vous n'êtes plus un être humain, vous n'êtes plus dans le bien humain, vous êtes soit une bête, soit un dieu. Une araignée qui peut vivre toute seule, c'est un problème. Un ange, et encore. Mais l'ange forme à lui-même une espèce, donc. Mais nous avons besoin les uns des autres, mais en plus nous sommes d'une certaine façon tissés les uns avec les autres. Et c'est ça que nous devons découvrir. De là, ce passage assez étonnant sur l'amitié. Chez Aristote, l'amitié n'est pas à entendre dans un sens trop romantique. Vous voyez, trop électif. J'ai choisi mon ami... Et voilà. Non, il y a plutôt quelque chose où l'amitié découvre, me fait découvrir la dimension profondément sociale de mon être. Et je suis déjà tissé par des amours. Et en entrant moi-même dans l'amour, je découvre le fond de mon être, le fond de mon origine. Bien sûr, là, je parle du point de vue presque plus chrétien qu'aristotélicien, mais chez Aristote, quand il parle de la philia, cette amitié, il parle d'une philia qui est une amitié politique aussi. C'est la philia, il en dit, c'est un lien, c'est le lien nécessaire de la cité. Vous voyez ? Et quand il va parler dans son éthique, il va faire un traité sur la justice, et juste après, il dit, mais ça ne suffit pas, il faut nécessairement l'amitié. Parce que si vous vivez que des relations de justice, voyez, non seulement vous êtes dans un jeu de donnant-donnant, ça ne marche plus. Il faut bien que quelqu'un commence à donner. Il faut bien qu'il y ait une gratuité initiale. Et que la bonté, que la générosité précède la justice. Et c'est ça le cœur de l'amitié. Vous savez, c'est pour ça qu'il y a ce passage très beau dans l'Éthique à Nicomaque, où Aristote, parlant de l'échange, du commerce, il dit « Et c'est pour cela que dans la cité, le temple des grâces est sur une éminence et bien visible pour tous. » Parce que, vous voyez, il faut d'abord voir qu'il y a une gratuité qui précède à l'échange. Je vous lis ce passage de l'Éthique à Nicomaque, livre 8. L'amitié est ce qu'il y a de plus nécessaire pour vivre, car sans amis, personne ne choisirait de vivre. Utile tous les autres biens. Pas mal, hein? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vivre et être ami, c'est la même chose. Vous voyez, ça manifeste notre être profondément social. C'est pas comme si j'avais une vie, puis après j'entrais en amitié. Une vie humaine, puis après j'entrais... Non, ma vie humaine est tissée d'amitié. Non seulement celle que je vais développer moi-même, mais celle dont j'hérite. Je suis héritier des amitiés, de l'amour de mes parents, de l'amour... Mais même de tous ces amours, mes amitiés qui ont fait des transmissions, une écoute. Qu'est-ce qui fait que je puis parler aussi bien la langue française? Si ce n'est en étant ami, héritier, ami de Bossuet. Lisez Bossuet, hein. Je vais relire Bossuet. Bossuet et François de Sales, lisez Bossuet. Un peu de Bossuet, un peu de François de Sales. Pour parler français. Pour bien parler français. Sans amis, personne ne choisirait de vivre, utile tous les autres biens. Et de fait, les gens riches et ceux qui possèdent autorité et pouvoir semblent bien avoir plus que quiconque besoin d'amis. C'est incroyable, ça. C'est une phrase géniale. Plus vous êtes riche, plus vous manquez. Plus vous pouvez sentir que vous manquez de l'essentiel, c'est-à-dire des amis. Ce n'était pas ça qui est premier, c'est d'abord avoir des amis. C'est une phrase inouïe, hein, de paradoxale, mais d'une profondeur. Voilà. C'est être riche, ce n'est pas être indépendant, hein, tout d'un coup. Plus vous êtes riche, plus vous vous rendez compte que finalement, ce qui vous manque, ce n'est pas les biens matériels. Et donc, plus vous vous rendez compte de cette dépendance dans votre vie à l'égard d'autres et d'avoir des amis. Tous les avoirs ne sont rien si vous n'avez pas d'amis. Vous pouvez tout avoir, vous n'avez pas d'amis, c'est plus rien. D'ailleurs, il dit, ça va même plus loin, « À quoi servirait une pareille prospérité une fois ôtée la possibilité de répandre des bienfaits ?» C'est-à-dire qu'en plus, il va plus loin, il dit, « Si vous êtes riche, c'est pour répandre des bienfaits. » C'est pour que ces biens matériels servent à une vie de communion. Et là, on retrouve l'histoire du chauffeur et du type avec sa Bentley, vous voyez. Ou encore, comment cette prospérité serait-elle gardée et préservée sans amis? Alors, vous voyez, là, il s'est dit, ouais, bon, les gens répandent, c'est bien fait. Non, il y a des types, ils veulent simplement garder leur trésor. Mais si vous voulez garder les trésors, même là, vous avez besoin d'amis. Ouais, là, il répond à une objection. Il dit, à supposer même que vous soyez égoïste, vous êtes obligé d'avoir des amis. Comment cette prospérité serait-elle gardée et préservée sans amis? Car plus elle est grande, plus elle est exposée au risque. Et plus vous avez d'argent, plus vous allez attirer les voleurs. Vous avez intérêt à avoir des amis pour garder pour vous aider à vous protéger même. D'accord? Un gros problème. Vous pouvez avoir des gardes. Le problème, c'est, bon, quand vous dormez, vous savez que le sommeil, ça fait partie de notre être social. Parce que vous êtes le plus fort du monde, quand vous dormez, vous êtes vulnérable comme un enfant. On peut vous égorger. Et donc, vous êtes obligé de vous associer avec quelqu'un qui tient le quart, vous voyez, pendant que vous dormez. Sinon, déjà, vous êtes, le sommeil implique une dimension profondément sociale. Alors, vous avez des gardes, mais le problème, c'est qui va vous garder de vos gardes? Il y a un moment où si vous avez créé un climat de terreur et plus personne, voyez, ne vous fait confiance, et qui va vous protéger même de vos gardes? Alors, vous pouvez faire en sorte de les intéresser à votre succès. Vous voyez, c'est comme ça qu'on fait. Voyez, vous terrorisez, vous en faites des co-terrifiants avec vous, voyez, et vous leur dites, bah, grâce à ça, t'auras tant d'argent, t'auras toi aussi, tu deviendras un petit tyran domestique ou dans une petite province, voyez. Mais en même temps, vous voyez, déjà, vous avez signé votre arrêt de mort. Il n'y a plus de confiance. Vous voyez, même si vous êtes dans cette logique de terreur, vous devez comprendre qu'à un moment, la terreur, ça ne marche plus, quoi. Une terreur, vous voulez simplement sauver vos petits trucs sans amis, ce n'est pas possible. Vous le voyez. Donc, vous voyez, il prend un argument par l'absurde. Il dit, on ne peut pas vivre sans amis, mais même celui qui prétendrait vivre sans amis et ne courir que des biens matériels et une puissance complètement individuelle et tyrannique pour les autres, eh bien, même celui-là, vous voyez, par l'absurde, il le montre, est comme forcé de trouver des amis. Et dans la pauvreté, comme dans toute autre infortune, les hommes pensent que les amis sont l'unique refuge. Oui, c'est dans les, comment on dit, dans le besoin qu'on reconnaît ses amis. J'allais dire c'est dans ses amis qu'on reconnaît le besoin, mais je crois que c'est encore plus vrai. Oui. L'amitié d'ailleurs est un secours aux jeunes gens, écoutez bien, pour les préserver de l'erreur. Amitié avec moi, hein. Les jeunes gens soient avec des gens, des personnes d'expérience. Je prends une voix plus grave. Avec des hommes mûrs. Aux vieillards, pour leur assurer des soins et suppléer leur manque d'activité due à la faiblesse. Bon, vous avez compris, je projette aussi pour mon avenir. À ceux enfin qui sont dans la fleur de l'âge, pour les inciter aux nobles actions. De plus, l'affection est, semble-t-il, un sentiment naturel du père pour sa progéniture et de celle-ci pour le père, non seulement chez l'homme, mais j'aime beaucoup ces phrases d'Aristote, non seulement chez l'homme, mais encore chez les oiseaux et la plupart des animaux. Vous savez, nous, on raisonne à l'inverse, c'est-à-dire on dirait, regardez, ce qu'on voit chez l'oiseau et les autres animaux, on le voit aussi chez l'homme. Mais vous savez que comme la vision de la nature chez Aristote, c'est une nature où tous les autres êtres sont des ébauches de l'humanité, et donc c'est magnifique de voir qu'il y a dans le singe un commencement de parole, de voir que, pour lui, c'est magnifique de voir que, voilà, quand on aime une femme, bah, on entraîne avec nous toutes les autres espèces sexuées, je vous l'avais dit. Donc, vous voyez, c'est comme ça, cette tournure très étonnante pour nous. Non seulement chez l'homme, mais encore, et dire le fait que cette chose-là, on la voit chez l'homme, mais qu'on la voit aussi chez les autres animaux, vient confirmer le fait qu'on le voit chez l'homme. Les individus de même race ressentent aussi une amitié mutuelle, principalement dans l'espèce humaine. Ça, c'est une phrase aussi stupéfiante. Ce qui fait que nous éprouvons, par exemple, qu'un Valaisan, les individus de même race, donc je parlais des Valaisans, ce qui fait qu'un Valaisan se sent si Valaisan et proche des Valaisans et du Valais, c'est qu'il appartient à l'espèce humaine. C'est paradoxal, cette phrase, vous avez vu? Parce qu'il dit que cette chose-là apparaît spécialement dans l'espèce humaine. Le signe de l'appartenance à l'espèce humaine, dans son ensemble, c'est cette capacité à l'attachement régional, national, ethnique. C'est aussi une phrase extrêmement paradoxale. Il est incroyable, Aristote. Hein. Chaque fois que je lis, je découvre des trucs... Et voilà ce qu'il écrit, la phrase, c'était cette phrase aussi que je voulais amener. « L'amitié semble aussi constituer le lien des cités et... » On pourrait se demander si c'est le cas aujourd'hui, en fait, hein, mais... « Et les législateurs paraissent y attacher un plus grand prix qu'à la justice même. » Dans la cité, la chose la plus importante, c'est l'amitié. Une amitié qu'on va appeler civique, enfin, vous voyez, c'est entre les citoyens. En effet, la concorde, qui paraît bien être un sentiment voisin de l'amitié, est ce que recherchent avant tout les législateurs, alors que l'esprit de faction, qui est son ennemi, est ce qu'il pourchasse avec le plus d'énergie. Et quand les hommes sont amis, il n'y a plus besoin de justice, tandis que s'ils se contentent d'être justes, ils ont en outre besoin d'amitié. Et la plus haute expression de la justice est, dans l'opinion générale, de la nature de l'amitié. Et c'est très beau, hein ? Si vous êtes amis, vous n'avez pas de justice, vous n'avez pas besoin de justice au sens de loi qui vous impose de faire ceci ou ça, parce que vous, entre amis, oui, les choses se passent, bien. Mais si vous n'avez que des lois, vous avez nécessairement besoin de l'amitié. Parce que sinon, à chaque fois, qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez multiplier les lois pour essayer de tout régler, ce qui n'est pas possible. Vous allez multiplier les contentieux, s'il n'y a pas d'amitié. À chaque fois, vous allez voir le juge, vous allez dire, regardez ce qu'il a fait, regardez, vous devez juger. Et ça devient ingérable. Vous savez, c'est pour ça que quand vous voyez des hommes politiques qui parlent d'unité nationale, de sentiment national, etc., en fait, ils essayent de renvoyer à cette amitié. Et à comprendre que nous sommes dans le même destin, que nous sommes pris les uns avec les autres, etc. Alors vous pouvez reprocher, on peut reprocher à Donald Trump son nationalisme économique, le fait qu'il a dit que les voitures ne seraient plus fabriquées au Mexique, mais sur le territoire américain, etc. Oui, il a fait peur à tous les fabricants de voitures et tout. C'est pour ça qu'on a voté pour lui, hein. C'est pas parce que, il a un teint de carotte. Hein. Bon. Oui ?
Et là, est-ce qu'on n'essaierait pas, en fait, de rendre les gens amis ? Enfin, je ne sais pas, je prends l'exemple de la France, des attentats. Bon, il y a un ennemi plus ou moins commun, et puis avec ça, on rassemble. Un peu facile, quoi.
Alors, Ludovic, vous faites une excellente remarque. Parce que la question que vous posez, c'est cette filia civique de la cité, cette amitié politique ou nationale, ou, vous voyez, je ne sais pas comment il faut l'appeler, est-ce qu'elle existe d'elle-même ou est-ce qu'elle ne peut exister que face à un ennemi commun ? Ça, c'est la question que vous posez. Et c'est normal que vous la posiez parce que vous êtes suisse. Parce que les Suisses, ils vivent ensemble, surtout parce qu'ils se distinguent des autres. Parce que c'est très très différent, un Suisse roman d'un Suisse alémanique. Vous voyez ? C'est rarement parce qu'ils ont des liens vraiment positifs entre eux. C'est souvent parce qu'en fait, ils se disent, le Suisse alémanique se dit « je ne suis pas allemand » et le Suisse roman se dit « je ne suis surtout pas français ». C'est une cohabitation, mais là vous avez... Alors, celui qui affirme cela, hein, qu'il n'y a d'amitié et d'unité nationale que face à un ennemi commun, c'est Carl Schmitt. C'est un grand philosophe politique. Mais... cela est, à mon avis, faire fi d'une dimension beaucoup plus positive et beaucoup plus évidente, qui est le fait que nous parlons, par exemple, la même langue. Il y a aussi des traits qui sont des traits positifs. Ce n'est pas simplement contre un ennemi. Il y a aussi, vous voyez, la question d'une origine commune. Donc la question de la langue, la question d'une histoire, la question de tout ce qui a été reçu dans notre, ce qu'on appelle notre facticité, hein, c'est-à-dire le fait de notre naissance. Et cela suppose donc des liens qui sont antérieurs même à des questions géopolitiques ou diplomatiques d'ennemis communs. Oui. Maintenant, il est certain, et c'est là où vous avez raison, Ludovic, c'est que malgré tout, souvent ces liens sont devenus tellement banals qu'on ne les voit plus, et que c'est souvent l'ennemi qui les revivifie ou qui nous fait apercevoir « Ah tiens, finalement on était français, ah finalement on est dans un héritage chrétien ». C'est ça qui est en train de se passer en France. Il fallait finalement l'islamisme pour qu'on prenne conscience à nouveau. Voilà. Et sans l'islamisme, bien sûr, il n'y aurait pas aujourd'hui, si vous voulez, de prise de conscience. Voilà. Souvent, hélas, on prend conscience qu'avec un coup de pied au derrière, hein, c'est la faiblesse humaine. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres choses qui sont antérieures, vous voyez. Donc il faudrait distinguer, pour reprendre un discours, une distinction platonicienne, un ordre ontologique de l'être de cette amitié et un ordre gnoséologique de la connaissance, de la prise de conscience de cette amitié, vous voyez.
cette amitié qui n'est pas l'amitié de toi et moi, mais l'amitié civique ou l'amitié nationale, ou l'amitié politique. Et donc, vous devez dire qu'il y a quelque chose au niveau de l'être qui existe, mais que souvent, c'est pas ça qu'on voit d'abord, tellement c'est banal. Il faut, dans l'ordre gnoséologique, vous voyez, souvent un autre, un étranger, un ennemi, pour qu'on prenne conscience de ces liens positifs. D'accord ? Mais alors, faites juste attention, ça n'implique pas nécessairement, en fait, une logique, ça implique une altérité, mais pas forcément une inimitié. C'est ça aussi ce que ne voit pas Carl Schmitt. Par exemple, vous ne vous rendez vraiment compte de ce que vous avez reçu de votre famille et à quel point vous êtes héritier de votre famille que dans le cadre de votre mariage. Parce qu'à ce moment-là, vous découvrez une belle famille et face à cette belle famille qui vous apparaît tout d'un coup, vous découvrez que vous avez des mœurs familiales qui sont complètement différentes. Vous voyez, Et c'est dans ce cadre-là. Donc, ce n'est pas forcément, si vous voulez, sous la forme de l'inimitié que ça arrive, mais sous la forme, vous voyez, d'une rencontre, vous voyez, où on peut percevoir l'altérité. Ou alors, sous la forme d'un conflit, mais un conflit, je dirais, amorti, non sanglant. Par exemple, le championnat d'Europe de football. Tout d'un coup, vous êtes français. D'un coup, la France. Voilà. Tout d'un coup, la Suisse. Eh, c'est curieux. Mais oui, parce que là, il y a justement un affrontement avec voilà, un autre, et c'est là que vous prenez conscience. Mais ce n'est pas forcément, vous voyez, l'ennemi. Ça peut être, vous voyez, le partenaire, d'une certaine façon. D'accord ? Mais en tout cas, votre remarque est pertinente. Mais c'est surtout au niveau de la prise de conscience. Parce que si ça n'est que dans une inimitié, et en fait, je me suis moqué des Suisses, mais ils ont une histoire commune quand même, c'est pas rien, vous voyez. Mais si ça n'était qu'une inimitié qui faisait qu'on s'allie, à ce moment-là, vous voyez, c'est comme l'alliance des différentes tribus orques, et des différentes tribus orques avec Sauron face, vous voyez, aux elfes, et ça marche pas. Parce qu'au final, ils s'entretuent. Dès qu'il n'y a plus l'ennemi devant eux, ils s'entretuent, quoi. Vous voyez cette dimension donc profondément fondamentale de l'amitié vient de ce que notre être est profondément politique. Vivre humainement, c'est vivre dans l'amitié, voilà. C'est pas comme si on était des individus humains qui, postérieurement, découvraient qu'il était dans leur intérêt de tisser des liens avec d'autres. C'est ce que nous sommes.